Vivre FM podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
Bonjour et bienvenue dans l'émission La santé mentale en question. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Bertrand, que j'ai eu le plaisir de rencontrer grâce à notre centre de formation au métier de la communication. Bertrand est bipolaire, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir un bac du génie civil, une licence d'économie, entre autres. Il a également créé ses propres sociétés, mais parfois, malheureusement, l'hospitalisation s'imposait. Mais grâce à l'association Argos, au groupe de parole de patients, et surtout à ses proches, Bertrand a repris les rênes de sa vie. Et c'est ce qu'il va nous conter aujourd'hui. Alors surtout, restez sur Vivre FM. Bertrand, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors j'ai eu le plaisir de vous rencontrer grâce à la formation Sino. Et puis vous aviez parlé un peu de cette formation. Et puis je me suis dit, j'ai envie de le connaître mieux. Et nos auditeurs sûrement aussi. Alors, comment vous étiez arrivé? Qui vous avait envoyé à cette formation?
Alors c'est parti. En fait, le tout début, c'est la reconnaissance de mon handicap par la MDPH. Ensuite, orientation à Cap Emploi, de Cap Emploi, orientation chez Vivre Alexandre Dumas, et de Vivre voilà, Alexandre voilà, Dumas, voilà. Sino.
Et alors vous, quand on vous a dit une radio, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ah ben, c'est apprendre, c'est une expérience que je n'avais pas.
C'est bien, donc vous avez une curiosité.
Ah oui, complètement,
dans votre caractère.
Ouais. Une très grande curiosité. Ouais.
La curiosité l'emporte quelquefois sur la peur un peu? Ou sur l'angoisse, non? Vous n'en avez pas du tout. Vous vous êtes dit, je vais essayer, qu'est-ce que je risque?
Non, des angoisses, non, j'en ai pas spécialement.
J'espère que vous remerciez Dieu tous les jours. Moi qui en ai, je peux vous dire. Et alors, comment vous avez trouvé? Alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez...
Le stage?
Oui, le stage.
Alors, le stage, c'était une superbe expérience. J'avais déjà fait un autre stage de bureautique au sein du magazine Être. Donc, c'est la continuité. Oui. On fait la presse écrite après la radio.
Ah oui, ça va avec.
Hein. Ah oui.
Bah, souvent, d'ailleurs, la radio se prépare.
C'est la logique des choses. Donc, une superbe expérience parce que moi, j'apprécie me retrouver avec des personnes en situation psy comme moi. On arrive tout de suite à discuter des choses essentielles et non pas à réexpliquer ce qu'est le handicap psychique à une personne normale.
Bah, d'ailleurs, c'est pas facile à faire, ça.
Non, c'est pas facile à faire, mais bon, ça vient avec le temps. Moi, ma bipolarité, elle m'a quand même été diagnostiquée il y a 16 ans.
Vous aviez quel âge quand ça...
J'étais jeune adulte, j'avais 21-22 ans.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait? On vous a carrément dit, vous êtes bipolaire
ou... En fait, oui, parce que j'ai eu cette chance, de commencer ma bipolarité par une phase maniaque aiguë.
Ah oui, donc ça aide.
Oui, ouais. Ça aide dans le diagnostic, parce que arrive en dépression, on peut être soigné pour dépression.
D'ailleurs, il y a des dépressions sans bipolarité.
Tout à fait. Et le problème donc, d'être soigné pour une dépression quand on est bipolaire, c'est qu'avec les antidépresseurs, on part en phase maniaque, mais bon... Le diagnostic est plus long à poser, c'est de l'ordre de 10 ans. Moi, j'ai eu cette chance, bouffée délirante aiguë, dépression sévère juste après.
Oui, donc ça, c'était assez
classique. Voilà, c'était facile.
Et classique. Mais quand même, quand on a 20 ans et qu'on vous dit vous êtes bipolaire, c'est quand même pas facile.
D'autant plus que c'était il y a 16 ans. Il y a 16 ans, la maladie psychique... J'ai l'impression que ça a bien évolué quand même depuis. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été hospitalisé et d'être le seul patient sur les peut-être 50 ou 60 locataires du centre.
Voilà, invités
VIP.
Oui.
J'étais pratiquement le seul où ses parents venaient le voir tous les jours. Et ça, c'est pour moi, c'était une chance. Mais oui, pour les autres, c'était aussi souffrant. Puisque eux, leurs parents, ne venaient pas ou venaient une fois toutes les 5 semaines. Donc il y avait quand même cette honte d'être en psychiatrie à cette époque-là. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a bien évolué quand même.
Alors peut-être que les parents ne venaient pas aussi, parce que les gens n'habitent pas tous à l'endroit où les gens sont hospitalisés, ou si les parents ne sont pas forcément tous là.
Même en prenant ça en compte, il y a 16 ans, c'était très compliqué de se retrouver en psychiatrie et de l'assumer dire, voilà, et de voir une lueur d'espoir. C'était compliqué, très compliqué.
Oui, il faut dire que quelquefois aussi dans le monde psychiatrique encadrant, on disait quand même que c'était pas bien de laisser de l'espoir. Donc c'était encore.
Moi, c'est ce qu'ils ont dit à mes parents. Ouais, tout à fait, ils ont dit à mes parents, ouais. Votre fils, on ne sait pas s'il reviendra. Donc, enfin, ça pose les choses. Ça a été extrêmement douloureux pour mes proches. Aussi douloureux que pour moi, la souffrance
elle
est partagée. Et voilà, bon.
Mais qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là quand ça vous a pris cette crise délirante ?
Qu'est-ce que je faisais ?
Vous faisiez des études, vous aviez.
Oui, j'étais. J'ai eu cette chance aussi. Alors visiblement, j'ai eu beaucoup de chance. J'étais déjà titulaire d'un diplôme d'études supérieures. Donc ça m'est arrivé en licence d'économie. Donc j'avais validé mon DEUG
Et qu'est-ce que vous vouliez faire alors avec une licence d'économie ? Vous étiez parti dans quel projet ?
J'avais l'envie d'être entrepreneur déjà à cette époque-là.
C'est bien ça. Oui, alors donc il faut mieux effectivement connaître un peu l'économie quand on veut être entrepreneur.
Voilà.
Ça aide.
Et j'avais donc travaillé, j'avais fait un cursus bancaire à la suite de mon DUT en technique de commercialisation. Et puis voilà, enfin.
Et vous aviez une idée dans quelle branche vous vouliez être ? Parce que c'est bien de monter une entreprise, mais...
À l'époque, non, j'avais pas d'idée précise, c'est venu plus tard. Parce que j'ai quand même créé deux entreprises, en fait.
Après ?
Après, ouais.
Voilà, ouais.
Alors,
c'était pour savoir si vous aviez toujours été resté dans la ligne de ce que vous auriez aimé faire au départ, en fait.
On revient sur la première observation, j'ai une curiosité sans limite.
Voilà, on peut en monter des entreprises dans une vie, ça c'est sûr.
Donc j'ai commencé par étudier le bâtiment et la construction, puisque j'ai un bac technique en génie civil. Après, j'avais un bon dossier, j'ai tenté une maths sup, ça n'a pas fonctionné. Et après, j'ai repris un cursus d'économie, j'ai validé donc un DEUG d'économie et de sciences de gestion, un DUT en technique de commercialisation, et après, par mon embauche dans le milieu de la banque, j'ai pu faire un BP de banque et une reconnaissance en assurance niveau licence maîtrise.
Donc là, vous aviez absolument tout, effectivement, pour être un bon entrepreneur, c'est sûr.
J'avais tout, mais j'avais la force de la phase maniaque pour être désinhibé de toute peur. Mais j'avais aussi la dépression qui... le pour et le contre, et surtout que sur une année civile, j'étais opérationnel 6 mois. Donc c'est déjà compliqué pour quelqu'un de valide qui travaille 12 mois, 7 jours sur 7.
Alors j'ai des anciens stagiaires qui effectivement travaillent en binôme avec quelqu'un d'autre qui n'a pas cette bipolarité, et qui, comme vous êtes en général assez géniaux et assez performants dans les 6 mois, ça se passe très bien. Quelquefois, il suffit de travailler bien 6 mois.
En fait, c'est aussi dans le piège dans lequel je suis tombé, c'est que quand on a conscience de cette puissance en phase maniaque, on a envie de toujours y être.
C'est normal, ça me paraît...
Faut pas oublier qu'il y a des manies qui sont extrêmement douloureuses pour
alors
d'autres bipolaires.
Mais souvent, dans les phases maniaques heureuses, les gens ont envie d'y être. Ça me paraît logique. Après, bon, vous êtes aussi vous êtes intelligent. Vous apercevez que malheureusement, on ne peut pas vivre tout le temps au top.
Non, on ne peut pas. Et en forçant ça, on se retrouve à faire une deuxième hospitalisation.
Mais c'est ce qui vous est arrivé.
Voilà.
Alors, vous aviez monté, avant la deuxième hospitalisation, vous aviez déjà monté votre entreprise ?
Oui,
ou pas ?
Deux entreprises.
Deux déjà ? Vous allez vite.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'elles étaient, ces entreprises ?
Alors, c'était la première société. J'étais associé avec un consultant en informatique sur les systèmes open source. On s'est lancé dans les affaires en février 2008. C'était vraiment au lendemain de la chute boursière qu'il y a eu. Et on devait immatriculer pour signer un contrat qui, finalement, n'a jamais été signé. Donc, ça a été... Un flop. Voilà.
Bon,
c'était la conjoncture.
Vraiment,
c'était...
Voilà. Oui, bah ça, on peut
Donc, il y a eu toute cette phase de création qui était extrêmement intéressante sur réaliser les dossiers de financement, les business plans. Donc, tout ça, c'était absolument sympathique. Et après, par contre, non, ça n'a jamais décollé. Donc, après, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient un petit peu la finance et j'ai créé une société d'apport d'affaires. Donc je travaillais essentiellement par téléphone.
Alors c'est quoi une société d'apport d'affaires? Je me documente.
C'est de la prospection.
Ah oui, voilà.
Voilà.
Pour quelqu'un d'autre?
Pour un client, oui.
Pour un client, voilà, oui.
Ouais. Donc j'ai travaillé pour une agence de communication et notamment un assureur.
C'est bien, ça, c'est assez intéressant. Sauf que c'est quand même tout le temps au téléphone. Est-ce qu'il y a quand même du contact humain? Parce que...
Alors, il n'y a pas de contact humain, ouais. Et moi, j'en voulais pas de contact humain.
Ah bon? Bah alors, vous qui êtes... Alors là, c'est surprenant.
Bah non, pas du tout, parce que j'arrivais à faire un chiffre d'affaires tout en étant chez moi, sans aucune contrainte. C'était ça qui me...
C'est pas mal, mais d'un autre côté, est-ce qu'on n'a quand même pas besoin de contact humain?
Bah, le problème de ma bipolarité, c'est que j'ai quand même une tendance sur ou des phases de manie ou des phases de dépression à être un peu asocial, faut le dire. J'éprouve pas de besoin de relations sociales quand je suis dans ces phases-là.
Voilà, mais d'un autre côté, quand vous étiez au centre de formation ici, on voit bien que vous aimez bien communiquer. Vous aimez.
Oui, j'aime communiquer, mais il faut pas que ce soit une contrainte. Il faut pas que ce soit, par exemple, dans le cadre d'un travail salarié, supporter des collègues c'est plus possible.
Voilà, on a tous un peu de mal, mais disons qu'on surmonte plus ou moins.
Voilà, mais moi je le surmonte pas.
Ouais. Et alors ça fait quoi si jamais vous êtes enfermé avec quelqu'un que vous aimez pas avec
lui? C'est non, parce que j'ai un tempérament à prendre je vais ruminer tout ça et puis à un moment, je peux plus sortir de la maison, je reste sous la couette quoi.
Ouais, je comprends bien. Bah, de toute façon là, on va faire une pause musicale puis on va se retrouver tout de suite après pour avoir la suite de cette histoire. À tout de suite.
De 10h à 11h, la santé mentale en question avec Anne Voileau.
Bertrand, donc on est dans cette aventure. Quand même. Quelque part, c'est une aventure quand même, une bipolarité, et puis de vivre sa vie avec, c'est une bipolarité. Il y a un côté aventure, c'est difficile, mais il y a un côté quand même aventure.
Ah oui, complètement.
Alors, donc vous êtes deuxième société, la
deuxième
finance.
Deuxième société.
Vous revenez à vos
finance,
premiers amours.
Premiers amours, donc prospection téléphonique, et ça dure 5-6 ans.
Ah, quand même. Ah oui, mais vous faites bien jeune, alors je me disais. Dans 5-6 ans, donc vous, c'est un peu le rêve, parce que vous travaillez chez vous, vous travaillez un peu comme vous voulez.
Oui.
Comme vous travaillez assez vite, si je le pense, ça se passe quand même assez bien.
Alors, ça se passait pas trop mal, mais comme je vous le disais, être performant seulement 6 mois de l'année, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et c'est en ça que ça n'a pas pu...
Oui, mais alors 5-6 ans, c'est quand même long pour une société. Elle ne dure pas toutes 5-6 ans.
Non, elle ne dure pas toutes 5-6 ans. Mais moi, je n'avais pas d'employé. J'étais tout seul. Donc, il n'y avait pas non plus...
de charge.
De charge, il y en avait. Parce que je devais m'acquitter quand même de sommes assez conséquentes par rapport au RSI. Et notamment aussi à gérer mon handicap au niveau administratif. Donc en fait, finalement, sur les dernières années, je passais mon temps à faire des dossiers et des courriers pour le RSI.
Oui, donc c'était plus le travail.
Non, j'avais plus. C'était un cercle vicieux parce que ces dossiers me ramenaient dans mon handicap.
Mais d'un autre côté, vous en aviez besoin.
Bah oui, je pouvais pas faire autrement. Dans la mesure où j'étais performant 6 mois dans l'année, et encore des fois, c'était à des heures, pas des heures de bureau.
Ah oui, c'est ça, pour rappeler les gens, c'est pas évident.
Ouais, donc voilà.
Et alors, qu'est-ce qui se passe au bout des 5-6 ans donc?
Et bah, au bout des 5-6 ans, on croule sous les mises en demeure. On croule sur un administratif qu'on n'a plus la force de gérer parce que on a trébuché, on n'est plus en phase de manie où tout est beau, non, on est en phase de dépression. Et puis, tous les jours, on a un recommandé d'une mise en demeure et on finit en hospitalisation.
Oui, ça je comprends, parce que même quand on n'a pas de problème, les mises en demeure et tout, ça mine quand même beaucoup.
Oui.
Hein. Donc, vous retrouvez hospitalisé. Donc, là, vous restez un moment ou comment ça se passe?
Je reste 2 mois.
Oui, non, c'est... Oui.
2 mois et après hôpital de jour pendant 1 an quasiment.
Et là, vous avez encore envie de créer, je suppose?
Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vis autrement, puisque j'ai plus cette contrainte financière, puisque j'ai validé entre-temps donc, un dossier à la MDPH avec une reconnaissance travailleur handicapé, une allocation adulte handicapé qui me permet de subvenir à mes besoins. Donc aujourd'hui, j'assouvis mes différentes curiosités.
Ah oui, ça c'est bien.
Bah, c'était le but. Enfin, c'est mon but. C'est toujours ce qui m'a intéressé. Après, l'entreprise, c'était gagner de l'argent pour financer des sujets de curiosité. Donc, finalement, là, je me retrouve...
Puis peut-être le côté créatif aussi, quand même.
Ah oui, mais ça, c'est indéniable. Ouais. Quand on est bipolaire et qu'on a des phases maniaques, oui, on est... Enfin, moi, ça passe par la création, oui.
Bah oui, alors là, vous êtes dans je comprends, hein, on peut lire, enfin, vous avez des curiosités étant à Paris, vous avez de quoi arriver à nourrir votre curiosité quand même. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'en faire quelque chose après, de cette curiosité, de cette nourriture en fait intellectuelle?
Bah, je la partage déjà avec les personnes que je côtoie, pour certains. Après, c'est un petit peu, quand on a fait un peu de psychiatrie, ergothérapie et choses comme ça, on apprend que la pratique artistique, c'est très bon pour déconnecter des pensées intrusives et de cette logique de dépression, une manie. Donc on fait des choses.
Voilà, mais c'est de la création, ça.
Oui. Mais il n'y a pas de volonté de le partager, il n'y a pas de volonté de... Non, c'est vraiment pour moi.
C'est quoi. Le plaisir de la création.
Ouais. Enfin, le plaisir et le plaisir de déconnecter quand je le fais.
Alors, qu'est-ce que vous faites comme de la peinture, de la sculpture?
Non, j'ai fait... par le biais de ma société, j'avais quand même... Je sais pas si c'était une phase maniaque qui m'avait guidé là-dessus, mais j'avais comme projet de communiquer sur les arts martiaux et le handicap. Donc j'ai fait réaliser deux DVD de grands maîtres d'arts martiaux. Et j'avais vraiment cette volonté parce qu'il y a un moment, j'ai pratiqué les arts martiaux et ça m'avait fait un bien fou. Dans la mesure où j'avais cette... Alors c'était la manière dont j'avais appréhendé mon handicap à l'époque, c'est que j'avais besoin de me battre contre ça. Et j'ai trouvé une réponse dans la pratique.
Oui. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez demandé là, au maître d'arts martiaux, handicap? C'est d'adapter? Qu'est-ce que vous leur avez demandé?
Non, en fait, déjà, c'était communiquer sur leur pratique, les faire connaître. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en côtoyant plein de groupes d'arts martiaux... il y avait généralement une personne handicapée dans chaque club.
Ah bon?
Oui.
Ah.
Oui, je connais donc un grand maître en Belgique d'aïkido. Et il y a un de ses adhérents où il lui manque un bras. Et il fait comme tout le monde, quoi.
Ah, ça c'est...
Il fait même son nœud de hakama d'une seule main. Enfin bon, c'est hallucinant. Et dans d'autres clubs, il y a... j'ai un ami donc là qui a un club sur Nesle-la-Vallée. Dans un groupe enfant, il y avait un petit qui avait un petit handicap moteur et visiblement plus ça allait sur le tatami, quasiment son handicap
disparaissait
quand il ressortait du tatami. C'était hallucinant.
Oui, ça m'étonne pas. Il est pris dans un engrenage, dans un...
Oui, ça rééduque les fonctions cognitives, remettre. En fonction le cerveau et les membres et les gestes et c'est fabuleux.
Et là, vous faites plus d'arts martiaux?
Non. Mais je continue à côtoyer
à suivre mes
amis profs.
Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, à développer sur faire connaître même peut-être ces histoires. Vous n'avez jamais essayé d'écrire?
Alors, écrire, j'ai une formation scientifique.
Oui, j'avais bien compris, mais ça n'empêche pas. Il y a beaucoup de
scientifiques. Et en fait, c'est après qu'on arrive à l'écriture.
Il y a beaucoup de scientifiques qui font des livres, quand même, aujourd'hui.
Oui. Et non, oui, enfin, oui, j'écris, oui.
Autour de aussi cette passion d'arts martiaux et puis les possibilités, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes handicapées?
Non, parce que je n'ai pas la prétention d'expliquer. Je pense que c'est plus donner la parole à des experts qui vont...
Oui, c'est pareil. Vous faites un livre, vous pouvez leur donner la parole.
Oui, enfin, j'ai pas songé à écrire un livre.
On verra.
j'ai plus fait des DVD pour ça.
Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est sûrement, il y a peut-être des parents qui nous écoutent. Donc, vous parliez de vos parents qui venaient tous les jours, c'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est parent et qu'on a un jeune où on s'aperçoit qu'il y a peut-être un problème, enfin, on se pose une question?
Alors, si on se pose une question, donc, par rapport à la bipolarité, en fait, les questions, soit on est... alors, ça peut être de l'hyperactivité, sur des phases maniaques, ça peut être, c'est toujours très compliqué. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que s'il y a hospitalisation, il faut... moi, j'ai reçu que de l'amour de mes parents, donc il y a un moment... cet amour, c'est une lueur qu'on voit au fond de soi, c'est son instinct de survie qui reprend le dessus et on sort de ça.
Oui, et puis quand on aime, on a de l'espoir. On peut pas, je peux pas avoir d'amour sans espoir pour la personne.
Oui, je suis d'accord, mais moi, mes parents à l'époque, on leur avait un petit peu refroidi cet espoir en leur disant qu'attention, peut-être que. Il va rester là toute sa vie.
Oui, mais heureusement, en tant que parent, on ne croit pas tout ce qu'on nous dit.
Non, je ne pense pas.
Donc, c'est peut-être aussi ça. Il faut peut-être plus croire son cœur que ce qu'on dit.
Oui, c'est essentiel, de toute façon.
Oui, mais des fois, on a du mal. Hein.
L'amour, ça guérit tout, normalement.
On a du mal, des fois. Oui. ça, et puis, la personne, c'est vrai que c'est difficile, je pense, quand on a 20 ans, de reconnaître qu'on a un vrai problème.
On ne l'accepte pas.
Ouais. Alors, vous, bon, vous avez une phase maniaque, ça, c'est, comme vous dites, c'est plus facile. Mais... disant qu'on sent qu'on va pas bien et qu'on va bien et qu'on va mieux et moins bien, c'est difficile quand même.
C'est le problème du handicap psychique, c'est que beaucoup de personnes ne sont à des années-lumière de concevoir la souffrance que c'est.
Oui, je pense que c'est très difficile, mais c'est... de l'accepter aussi. Vous, quand on vous l'a annoncé, comment on le vit à 20 ans?
Moi, j'ai pris, je vous dis, je suis allé sur un tatami et
c'est pas mal ça quand même.
Et j'ai pratiqué. J'ai pratiqué le combat pour combattre ça, quoi. Enfin, c'était une façon.
C'était une façon de mettre
le
mettre
combat
face.
Physique engrangé chez moi, ce combat contre ces idées un peu, complètement loufoques et choses comme ça, oui.
Oui, puis c'est surtout aussi que, est-ce que les mots qu'on met sur une pathologie, est-ce qu'on les comprend à un moment, c'est pas toujours évident. On vous dit, bon, vous êtes une bipolarité, veut dire quoi, quelque part?
Moi, j'avais quand même fait bien attention et j'ai fait extrêmement attention à l'époque de pas aller m'informer sur Internet de ce que c'était
ça, alors, première,
que tout ça.
Merci, c'est première leçon,
oui,
surtout.
Ça, je parce que j'ai tout de suite compris que de toute façon, ce handicap que j'avais, cette pathologie, elle était propre à moi et propre à ma sensibilité, propre à mon histoire, propre à mon vécu et choses comme ça. Donc, j'ai tout de suite compris que je n'avais pas intérêt à me nourrir des expériences des autres qui n'étaient pas la mienne.
Oui, en tous les cas, surtout aller regarder la pathologie sur Internet. Ça, vous avez trouvé n'importe quoi.
Oui, et puis c'est effrayant. C'est effrayant.
Alors, c'est vrai, vous avez 10 personnes bipolaires, vous avez 10 personnes différentes, heureusement.
Oui, il y a autant de bipolarité qu'il y a de bipolaires, de toute façon.
Heureusement.
Oui.
Sinon, ça serait quand même... merci beaucoup. On va refaire une pause musicale. On se retrouve tout de suite après.
Vous écoutez La Santé Mentale en Question avec Anne Voileau.
Bertrand, c'est déjà la dernière partie.
Alors, oui, ça passe vite.
Ah oui, c'est vrai. Alors, il y a eu une grande journée sur la maladie psychique et puis le rétablissement. Et justement, on a parlé pas mal d'Argos. Alors, je sais que vous y allez dans cette association.
Oui, alors c'est une association... alors, en fait, c'est venu comment ? Je sortais de groupe de parole à un hôpital de jour pour addiction. Et j'avais besoin donc de trouver des groupes de parole, mais cette fois qui me concerne pleinement, c'était donc sur la bipolarité, et j'ai trouvé comme ça l'association Argos 2001, donc qui organise des conférences une fois par mois sur la bipolarité en faisant intervenir des experts psychiatres, donc des conférences extrêmement intéressantes une fois par mois, et des groupes de parole plusieurs fois dans la semaine. Alors ça peut être des groupes de parole, juste des patients et proches, juste proches, des plus jeunes, donc vraiment il y en a pour tout le monde, et ça a été extrêmement important ces derniers temps pour moi.
Et les conférences, elles sont pour tout le monde,
les gens
qui peuvent s'intéresser.
Tout à fait, ça se passe à côté de l'hôpital Sainte-Anne, c'est au FIAP de la rue Cabanis, il me semble, et c'est ouvert à tout le monde, et on apprend beaucoup de choses, puisque souvent les psychiatres nous présentent un petit peu les dernières avancées de la recherche. La dernière conférence, il y avait un psychiatre qui était en train de rédiger sa deuxième thèse, et il présentait vraiment des éléments d'amélioration de la gestion du trouble, donc c'est extrêmement enrichissant, oui.
Oui, c'est bien. Et aussi, j'imagine, les proches, ça aide énormément parce que ça devient concret.
Dans les proches, on retrouve beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ont un proche en situation de troubles bipolaires.
Mais
qui ne sont pas sûrs, pas diagnostiqués, donc ils viennent chercher de l'information et l'information, ils la trouvent. Oui.
Ça,
et les conseils aussi, oui.
Et alors, on peut aller assez souvent à Argos, si vous voulez.
On peut aller aux conférences tous les mois, comme je le fais,
aller une fois
tous les 15 jours au groupe de parole.
Oui, c'est très bien, ça.
Oui, très important. Enfin, ça a été vraiment une étape et quelque chose que j'avais besoin, et je l'ai trouvé, c'était très agréable.
Et puis vous-même aussi, vous rencontrez d'autres personnes dans les groupes de parole et vous aidez aussi par vos propres expériences, en fait.
Oui, c'est l'intérêt des groupes de parole, c'est d'exposer chacun un petit peu sa manière de fonctionner, de présenter un petit peu les choses qui l'ont fait sortir, ou de déprime, dépression.
Donner des petites astuces, des petits... Ouais.
Voilà, ouais.
Et vous dites addiction, vous êtes tombé dans une addiction?
Oui.
Laquelle? Je suis curieuse.
J'ai eu une addiction au cannabis, puisque j'avais remarqué que je stimulais mes phases maniaques avec le cannabis.
Ah oui, c'était le contraire. C'est-à-dire, il y a des gens qui le prennent parce que c'est un désangoissant. Vous, c'était le contraire.
Oui.
Oui, pourquoi pas. Et alors, vous avez réussi à quand même, en allant, moi je dis toujours rue Cabanis, c'est cannabis, mais non, c'est rue Cabanis, ne mélangeons pas.
Ne mélangeons pas.
Oui, donc vous avez réussi grâce à l'association à...
Alors ça, c'était suite à ma deuxième hospitalisation, c'était dans un centre, je vais le dire, c'était le centre de psychothérapie d'Oni.
Oui, parce que c'est bien en plus.
Où ils traitent les addictions. Et aussi, ils ont quelques personnes en situation de handicap psy. Ça peut être un petit peu de bipolarité, un petit peu de schizophrénie. Mais visiblement, c'est quand même les addictions qui sont traitées en majorité dans ce centre.
Oui, je crois que c'est important aussi d'en parler, parce qu'être addict à quelque chose, ça veut dire que ça compense quelque chose qui ne va pas bien.
C'est de toute façon, c'est pour anesthésier une souffrance.
Oui,
donc on retrouve beaucoup de bipolaires
en
situation d'addiction avec l'alcool ou avec d'autres substances.
Mais le cannabis, beaucoup sur les gens angoissés, parce qu'ils disent que ça leur diminue vraiment beaucoup l'angoisse. Donc on retrouve pas mal de personnes aussi qui ont un recours. Donc c'est vrai que c'est difficile après de revenir en arrière, mais on y arrive, la preuve. Alors votre vie aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que vous aimeriez?
Alors ma vie aujourd'hui, elle est parfaite.
Oh, c'est génial quand même, c'est beau.
J'ai du temps, j'ai plus d'éléments contraignants qui viennent augmenter ce stress et donc les risques de déprime. J'en ai toujours, hein, puisque j'ai des fluctuations quand même toujours présentes, mais aujourd'hui c'est agréable.
C'est génial quand même.
Oui.
Alors ça veut dire aussi que vous êtes bien médiqué. Ça doit aider aussi.
Oui, là plutôt, je suis plutôt stabilisé, on va dire, en ce moment. Mais ça veut dire aussi...
Que vous savez bien gérer.
Oui, et puis bon, c'est des sacrifices, hein, c'est une hygiène de vie que j'ai aujourd'hui à 39 ans, que je n'étais pas prêt à faire à 20-25 ans, ça c'est clair.
Oui, c'est-à-dire en fait, par rapport au sommeil, par rapport à... Est-ce que la nourriture rentre en ligne de compte?
Bien sûr, je suis végétarien maintenant.
Ah bon, d'accord. Ouais. Et ça joue, vous pensez?
Je sais pas, c'est ce que j'observe.
Ouais.
Mais je me sens bien. Oui, enfin, je teste... ma curiosité, c'est avant tout, comment je vais mieux vivre encore.
En fait, ça vous a obligé, cette pathologie vous a obligé à 39 ans à devenir sage. C'est quand même beau. quelque ouais. part, c'est un peu ça.
Oui.
C'est même beaucoup ça, parce que ça veut dire que vous gérez les choses qui vous arrivent le mieux possible et que vous avez atteint quand même un bonheur. C'est quand même génial, tout le monde rêve de ça.
Oui, oui. Bah alors allez-y, soyez bipolaire.
Alors malheureusement, je vais dire, on n'y arrive pas comme ça.
Non.
Mais mais c'est beau quand même. Parce que les gens, imaginez que des gens nous écoutent, ils ont 20 ans, ils en sont au début de ce que vous viviez quand vous avez été hospitalisé.
Eh ben je leur dis que c'est possible et c'est deux fois plus possible aujourd'hui.
Et je vous assure, moi qui suis là, il est vrai, il est en face de moi, il existe. Bertrand n'est pas un mythe, il est là. Non, mais c'est important quand même.
Oui, parce que moi, j'ai, comme je vous le disais, quand j'étais hospitalisé, on m'a pas donné de lueur d'espoir. Et pas à mes proches non plus. Donc, c'est un petit peu ce que
et
je reprocherais.
Et alors, aux parents aujourd'hui, moi, il faut reprocher. L'espoir, on en a tous besoin. Et il n'y a rien de définitif dans la vie, à part, bon, une fois ayant propre, on ne sait pas ce qui se passe après. Mais bon. Mais vos parents, qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant, justement?
Mes parents, je pense qu'ils sont, ils sont contents parce que ça se passe bien. Mais bon, ils ont toujours un petit peu cette arrière-pensée à se dire, bon. C'est pour quand la prochaine phase, c'est voilà, parce que mais moi je me sers aujourd'hui de mes parents comme
garde-fou, si on peut dire.
C'est pas garde-fou, c'est oui, enfin ça a été, mais c'est plus un miroir. Par exemple, je sais qu'il y a certaines remarques de ma mère, par exemple, qui me font dire tout de suite, oula, là t'es en phase de t'es en manie là. Donc les proches, oui, ça sert un petit peu à gérer tout
mais
ça.
Mais parce que vous êtes en pleine confiance dans les deux sens.
Oui, j'ai cette chance-là, voilà. Oui.
Oui, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que vos parents vont vous écouter et vous allez les écouter.
Tout à fait.
C'est la première des choses. Alors, c'est vrai, mais vous me rassurez, vous avez quand même un peu la phase maniaque, vous avez quand même un peu les deux. Parce que ça vous permet quand même...
Ah oui, non, mais moi aujourd'hui, j'ai quand j'ai une phase de... Alors, c'est des phases de manie qui sont pas...
Non, vous n'allez pas acheter une Ferrari.
Non, j'ai pas la carte bleue pour acheter une Ferrari, mais c'est des petites manies aujourd'hui, parce que mon traitement, ma posologie fait que je suis stabilisé dans une échelle
oui,
de grandeur.
Oui,
et voilà, j'ai encore des jours où le temps joue beaucoup. Par exemple, dès qu'il fait un peu gris, je peux rester sous la couette toute la journée. Bon. Ce qui est agréable, c'est que... ça gêne personne. Bon, parce que je suis tout seul, mais aujourd'hui j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit parce que je suis une journée au lit ou parce que je fais je sais pas quoi jusqu'à 5h du matin en face de Manille.
Oui, c'est ça que vous dites dans le côté heureux, c'est que vous êtes en gestion de votre vie totalement, enfin de vos humeurs, mais de votre vie en même temps.
Je vis en fonction de mes humeurs.
Voilà.
C'est-à-dire que si c'est déprime, eh ben c'est déprime, c'est sous la couette. Et j'attends que ça passe. Parce que ça passe.
Oui, parce que vous savez maintenant que ça passe.
Oui.
Ouais, ça, c'est faux. Oui, ça, c'est important.
Oui.
Et vous savez que le reste revient après.
Oui, mais après, ça veut dire aussi que c'est... Enfin, c'est important. C'est, enfin, moi, je n'ai pas aujourd'hui de situation professionnelle, mais quand on a un travail, un crédit à payer pour une maison, des enfants... et qu'on est en dépression, forcément, on culpabilise. Et forcément, c'est d'autant plus difficile d'en sortir.
Par contre, je suis sûre que si vous le vouliez, vous pourriez très bien reprendre un travail dans l'état dans lequel vous êtes, c'est sûr.
Oui, mais le problème,
avec
c'est...
Avec plus ou moins de facilité, mais ça serait possible.
Ce serait possible, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir envie...
Oui, voilà, non, c'est ça.
D'avoir envie de cette souffrance à m'adapter.
Oui, voilà. Non, je comprends bien. Mais à mon avis, c'est tout à fait possible avec quand
oui,
même...
Oui, c'est possible parce qu'il y a des bipolaires le travail, c'est la santé. Bon, chacun pense ce qu'il veut.
Non, mais c'est vrai que le rêve de tout un chacun, je crois que c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire vivre en harmonie avec soi-même, c'est ce que vous êtes en train de décrire, et puis avec le monde, et voilà. C'est ce que vous faites.
Oui. Bah,
bravo Bertrand.
Merci.
Continuez comme ça.
On continue.
Et puis vous reviendrez nous parler de vos premiers livres. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.
Vivre FM, podcast.